France Culture.
Et les midis, c'est reparti. Tout à l'heure, on prendra la mer avec Stéphane Melchior et Youn Lokar. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier. Cette fois, c'est pour le Point Culture du jour. Rebonjour.
Rebonjour Marie et bonjour à tous. Ce week-end se tient au Carreau du Temple à Paris le Salon du Livre Rare et des Arts Graphiques. Alors à cette occasion, un collectionneur met en vente des documents extraordinaires de Franz Kafka, manuscrits, première traduction, édition originale, lettres. Alors quelle est l'importance de ces documents? Comment éclairent-ils l'œuvre de Kafka? C'est le dossier du Point Culture du jour. Maya Rouska, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes auteure, vous avez publié chez Grasset en 2024 Diversion Kafka. Est-ce que vous pourriez nous présenter, pour commencer cet entretien, les documents qui vont être mis en vente ce week-end?
Oui, c'est une vente absolument extraordinaire à plus d'un titre. Tout d'abord, en raison de son ampleur et de sa taille, ce sont plus de 400 objets. Et parmi ces objets, il y a donc les premières éditions de Kafka, non seulement en allemand, mais aussi en traduction. Il y aura les premières traductions de Kafka en espagnol, en tchèque, en français, en anglais même. Donc en fait, ce sont des éditions qui sont des éditions en allemand et en traduction. Et ce sont également des documents autographes de Kafka. Donc il y a également des annotations faites à la main par Kafka, pas seulement en allemand, mais aussi en hébreu. Il y a également des illustrations, puisque Kafka, l'univers de cet auteur a influencé et nourri énormément d'artistes graphiques. Donc il y a ces éditions, comme je vous disais, ces premières éditions, elles ont été traduites, mais elles ont aussi été illustrées. Et donc il y a des illustrations de Max Ernst, des illustrations de Magritte, des illustrations d'expressionnistes allemands qui étaient très en vogue dans les années 20. Et donc c'est un ensemble d'objets très très bavards, si je puis dire. Voilà, ce sont des objets qui racontent énormément d'histoires et qui, le fait même de parler d'objets est peut-être réducteur, parce que plus que des objets, ce sont aussi des documents qui sont des enjeux. Voilà, ce sont des enjeux.
Alors lesquels, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret?
Oui, alors par exemple, ce sont des enjeux qui racontent une histoire et les enjeux politiques au XXe siècle. Les premières traductions de Kafka, elles commencent dès les années 20. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Kafka n'aurait même pas dû exister. L'œuvre de Kafka aurait dû être détruite, puisque c'est la demande qu'avait formulée Kafka à son meilleur ami, Max Brod. On connaît l'histoire. Kafka écrit ce testament dans lequel il demande à son meilleur ami de tout détruire, voilà, de tout brûler, aussi bien ses manuscrits que ses correspondances avec ses amis, que ses journaux intimes. Et on le sait, Max Brod trahit ce testament, et au lieu de tout détruire, eh bien, au lendemain de la mort de Kafka, eh bien, il rassemble tous ces documents, il les édite et il les fait publier. Et ensuite, on peut dire que l'histoire s'emballe, puisque dès lors que Kafka existe en allemand, enfin que le plus gros de son œuvre se met à exister en allemand, eh bien, ensuite, c'est les traducteurs qui prennent le relais. Et donc, c'est d'abord un enjeu, parce que c'est ce que ça raconte de l'histoire éditoriale au XXe siècle, de cette histoire éditoriale qui n'aurait même pas dû avoir lieu, comme je le disais, puisque tout dépend, ça tient à pas grand-chose, ça tient à un testament trahi, comme dirait Milan Kundera. Vous voyez, c'est un testament trahi qui donne lieu non seulement à une aventure éditoriale extraordinaire, mais aussi à un tour du monde. Et il circule dans le monde entier, on le voit dans cette vente, hein. Il y a par exemple les premières traductions en espagnol qui sont publiées à Buenos Aires, vous voyez, parce que Borges, Jorge Luis Borges, prend le relais et traduit et diffuse Kafka en Amérique du Sud. Il devient un auteur monde parce que Eugène Jola, qui est son premier traducteur anglais, eh bien, le fera traduire et enverra dans une revue, dans une revue qui s'appelait Transition, et cette revue sera ensuite diffusée aux États-Unis, à New York, sur la côte Est. Donc là aussi, Kafka devient un auteur monde grâce à ces choses qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais qui étaient les revues littéraires qui avaient une très grande circulation.
Alors, puisque vous parlez d'auteur monde, peut-être revenir sur ces traces de l'hébreu sur ces documents-là. En quoi est-ce là aussi un témoignage important de la biographie de Kafka, cette présence de l'hébreu?
Tout d'abord parce que c'est très émouvant, et puis parce que Kafka était, faut pas oublier, faut resituer Kafka. C'est un homme né en 1883 à Prague. En 1883, Prague, ce n'est pas la capitale de la République tchèque. Enfin, dans ces années-là, Prague est encore une ville de province au sein d'un empire qui était l'Empire austro-hongrois. Et donc Kafka, qui était un peu embêté vis-à-vis des différentes langues, en tout cas qui peuplaient cette partie-là du continent européen et de son histoire personnelle, puisque Kafka était un écrivain appartenant à la bourgeoisie juive, germanophone. Donc, si vous voulez, Kafka, il était pris entre différentes langues. Il écrivait en allemand, c'est la langue dont il utilisait, puisqu'il appartenait à cette minorité germanophone de Prague. Et en même temps, il comprenait le tchèque, mais ne s'en servait pas pour faire de la littérature. Et il s'intéressait de plus en plus à l'hébreu. C'est-à-dire que l'hébreu, à cette époque-là, c'était une langue qui était en pleine renaissance, puisque dans les années 20, c'est les années où le sionisme est pensé, le projet sionisme est pensé dans des congrès qui ont lieu en Europe centrale, notamment dans des villes comme Vienne, comme Prague, comme Tchernovitz. Et donc Kafka est très sensible. Il ne sait pas quoi en penser, mais en tout cas, il y est sensible parce que c'est la grande actualité de son époque. Voilà, c'est ce qui se passe en Palestine mandataire, si vous voulez. Et donc Kafka s'intéresse de plus en plus à l'hébreu et il apprend cette langue même avec acharnement, à partir de 1917 et jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, à mesure qu'il fréquentera différentes fiancées, eh bien, Kafka nourrira le projet, surtout à la fin de sa vie, d'imaginer une vie avec sa dernière fiancée à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et donc, il écrit et il prend note de ces mots hébreux. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mots que l'on voit là, donc en fait, ce sont des leçons de conjugaison. Donc, ce sont des verbes qu'il conjugue en hébreu pour apprendre. Et c'est là où c'est émouvant, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu scolaire. Mais surtout, on se rend compte que Kafka est encore Kafka même en hébreu. Parce que les verbes qui sont conjugués, les verbes dont il est question, ce sont les mots juger, punir, consoler. Vous voyez, c'est le même. Vous voyez, Kafka ne change pas d'univers en changeant de langue. Et l'hébreu est aussi intéressant parce que ça dit beaucoup de cette époque où Kafka s'intéressait, notamment après, ou du moins aux alentours de la lettre qu'il envoie à son père. Vous savez, la fameuse lettre au père dans laquelle il reproche à son père de ne pas lui avoir enseigné les fondements de la culture juive, par exemple. Et donc Kafka se dit, bah voilà, puisque personne ne me l'a enseigné, eh bien, je vais le faire moi-même. Je vais m'enseigner à moi-même ce dont j'ai été privé enfant. Il le dit lui-même, hein, c'est apprendre l'hébreu, c'est comme prendre des nouvelles de loin. Et il y a quelque chose de très intéressant, puisque Kafka, jusqu'à la fin de sa vie, hésitera à faire ce voyage que font ses autres amis. Et on pense ici à la phrase de Lévinas, vous voyez, la terre promise n'est pas forcément une terre permise. Voilà. Et Kafka, il y avait quelque chose qui le retenait, en tout cas, de prendre ce bateau et d'y aller.
Alors, un dernier mot peut-être, voilà. avant de finir cet entretien. Qui va, selon vous, se porter acquéreur de ces documents ?
On peut dire qu'au cours du XXe siècle, ce sont souvent des institutions universitaires qui se sont portées acquéreuses. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le gros des archives de Kafka est réparti dans trois pays. En Angleterre, à l'université d'Oxford, en Allemagne, donc au siège des archives littéraires nationales, à Marbach, côté de Stuttgart, et à Jérusalem. Et donc les institutions allemandes et israéliennes, en fait, se sont souvent battues dans des tribunaux pour savoir à qui revenait la garde de ces manuscrits de Kafka. Et donc, peut-être qu'il y aura, lors de cette vente ce week-end, eh bien des acheteurs qui seront des représentants de ces diverses institutions. Et donc, c'est en ça que Kafka est un enjeu très intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, on pense à Goethe qui avait théorisé ce qu'était la littérature mondiale. Voilà. Et donc, la littérature mondiale, on se demande souvent ce que c'est, si ce n'est pas un concept de prof, mais en fait, la littérature mondiale, c'est ça. On peut étudier le concept de littérature mondiale en se rendant à ce salon, en voyant comment une œuvre se diffuse à travers le monde. Voilà, la mécanique des diffusions grâce aux revues, grâce aux traducteurs. Et voilà, j'insiste sur le fait que parmi les objets présents à cette vente, eh bien, il y a les premières traductions, donc en espagnol par Borges, les premières traductions en tchèque par Milena, celle qui a reçu les lettres d'amour enflammées et torturées de Kafka, elle fut surtout et d'abord sa traductrice en tchèque. Donc ça aussi, ça éclaire un autre aspect d'une histoire que l'on pensait déjà connaître. Il y a son traducteur français, Alexandre Vialat, qui lui aussi a été son premier passeur en français, Jolas, son premier passeur en anglais. On peut s'intéresser à la façon dont ces livres, en fait, sont parvenus jusqu'à nous et ce qu'ils racontent et l'histoire qu'il renferme.
Eh bien, merci beaucoup. On guettera donc cette vente au Salon du Livre Rare. Merci beaucoup, Maya Ruska.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le Forum des images à Paris va réduire sa voilure.
Oui, Claude Farge, directeur de l'association qui chapeaute trois salles dans les sous-sols des Halles, a annoncé qu'à partir de septembre, deux fois moins de films seront projetés et que ses effectifs allaient être réduits de 20%. Dès avril dernier, un collectif de salariés du Forum des images alertait sur la baisse des subventions accordées par la ville, qu'elle accuse d'avoir réduit de 500 000 euros depuis deux ans, soit 6% environ de son budget. En parallèle, des séances privatisées par France Télévisions ou Netflix vont davantage occuper les salles.
Et pour finir, Marie, un marbre rarissime de Rodin vendu aux enchères.
Un petit marbre du sculpteur retrouvé par hasard entre la Sologne et le Berry a été adjugé 860 000 euros lors d'une vente organisée ce week-end au château de Villandry. Qualifié de marbre rarissime par Émeric Rouillac, l'un des commissaires priseurs qui organise cette vente, le désespoir, c'est son titre, réalisé vers 1892 et resté longtemps méconnu de ses propriétaires français qui pensaient qu'il s'agissait d'une copie. Variante tirée de la célèbre Porte de l'Enfer, le marbre représente une femme assise, repliée repliée sur elle-même et se tenant le pied, la sculpture de marbre blanc qui mesure 28,5 cm avait été mise à prix à 500 000 euros.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.